Comme tu veux, Charles.
Après, moi, je vais faire quelque chose d'assez court. Hein. Je vais essayer de synthétiser parce qu'en plus, il y a des
Ah, je suis
questions
désolé,
déjà.
j'ai mis trop de temps, j'ai essayé d'être.
Il n'y a pas de souci, quand la passion est là, effectivement, on ne fait pas toujours
Ouais, c'est
gaffe
vrai
à
que c'est
l'heure.
difficile. Pourtant,
Mais
j'ai
juste,
vraiment synthétisé. Mais...
je vois quelqu'un qui pose une question sur Bonaparte et ça me concerne plutôt. Donc, je vais
si tu veux
enchaîner
répondre, ouais.
si tout le monde le veut bien sur la chouannerie. Surtout qu'au final, tu as fait une belle transition en évoquant la mort de Charette, qui ouais, on peut considérer comme la fin des guerres de Vendée en tant que telle. Pour entrer dans le vif du sujet, on va dire la chouannerie, autre salle, autre ambiance, si on veut. Le premier critère qui différencie les guerres de Vendée et la chouannerie, c'est évidemment les territoires sur lesquels s'étendent ces deux révoltes. J'ai mis dans le chat, j'ai mis une carte. Moi, je ne fais pas un stream comme Arnaud, je n'ai pas préparé un super diaporama, donc j'ai juste une carte à diffuser pour vous permettre de situer un peu l'action de ce que je vais évoquer. Donc, je ne sais pas si tout le monde a y a accès, comment ça se passe. Mais voilà, elle est là. Cette carte, elle n'est pas parfaite parce qu'elle évoque juste ce qu'on appelle la troisième chouannerie pour l'année 1798-1799. Le plus intéressant, c'est les zones en rose qui montrent en fait toutes les zones insurgées. Voilà. Donc la chouannerie, c'est un mouvement pareil, contre-révolutionnaire, qui puise ses origines dans les mêmes raisons que la Vendée, et qui s'étend, donc comme vous le voyez sur la carte, sur une bonne partie de la Bretagne, exception en faite du Finistère et d'une partie de ce qu'on appelait autrefois les côtes du Nord, qui sont aujourd'hui les côtes d'Armor. Ça englobe la Normandie, la Basse Normandie plutôt, et la région jusqu'au Mans, qu'on appelait autrefois le Maine, et que je vais continuer à appeler comme ça. Je vais partager d'ailleurs une deuxième carte plus intéressante qui montre en fait les anciennes provinces royales. Je vais souvent utiliser les anciennes appellations. Donc voilà. Donc la chouannerie, si on reprend un peu au début, elle commence en même temps que les guerres de Vendée. En fait, au début, c'est deux révoltes vraiment mélangées, puisque les premiers troubles commencent dans l'année 1792 et puis atteignent leur apogée avec la révolte armée en mars 93 avec la conscription. Je ne vais pas vraiment pas entrer dans les détails. Retenez surtout que voilà, la révolte armée commence en mars 1793 avec la conscription. Il y a une grosse différence entre la chouannerie et les guerres de Vendée, surtout, donc, il faut quand même que j'en parle un peu, dans la dimension surtout bretonne du mouvement. Moi, je défends l'idée que la chouannerie est surtout bretonne, puisque la Normandie, au grand maximum, n'a pu lever que 3000 combattants et le mouvement a été assez peu organisé, assez peu intensif, c'était vraiment des petites bandes. Et dans le Maine, certes, la chouannerie commence là-bas en 1792-1793. Les premières bandes se montent dans le Maine, en réalité dans la région de Laval, donc qui est assez frontalière avec la Bretagne. Mais ensuite, la chouannerie va vraiment être très active en Bretagne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le chouan reste une figure majoritairement bretonne. C'est l'égérie du breton combattant pour son indépendance et sa liberté. En effet, une des causes de mécontentement dans l'ancienne province royale, la Bretagne, voilà, c'était au moment de la Révolution, pardon, c'était justement l'abolition des privilèges. Alors, on pense souvent à l'abolition des privilèges de la noblesse, mais Arnaud l'a quand même dit, effectivement, les provinces ont dû renoncer à tous leurs privilèges. Et la Bretagne, du coup, en a perdu une grosse partie. Pour vous citer quelques exemples, en gros, du point de vue financier, par exemple, le roi ne pouvait pas lever de nouveaux impôts en Bretagne sans en référer au Parlement breton, justement, qui était situé à Rennes, pour ceux qui connaissent un peu Rennes, voilà, le Parlement de Bretagne existe encore, enfin le bâtiment existe encore, qui accueillait le Parlement de Bretagne. Mais voilà, le roi, par exemple, ne pouvait pas lever de nouveaux impôts sans l'accord du Parlement de Bretagne. Il y avait une exemption de toutes les taxes relatives au sel, donc ça c'était quand même un très gros avantage. D'un point de vue militaire, par exemple, les Bretons ne pouvaient servir que dans des régiments intégralement levés en Bretagne, commandés par des officiers bretons, voilà, etc. Il y avait vraiment beaucoup de privilèges et puis surtout une vraie identité bretonne qui se bâtissait autour de toutes ces petites exemptions et avantages. Ça, c'est lié surtout à l'histoire de la Bretagne. Je ne reviendrai pas dessus parce que là, voilà, on peut en parler pendant très longtemps et ce n'est pas le sujet. Mais c'est un fait que les premiers Chouans, les premiers révoltés bretons, je vous cite par exemple le plus célèbre d'entre eux, celui qui a vraiment organisé le mouvement, le marquis de La Rouërie. C'était un ancien officier de l'armée royale qui avait combattu notamment pendant la guerre d'indépendance américaine et qui était vraiment le premier Français avant Lafayette, hein, vraiment avant Lafayette, à venir se battre dans l'armée des insurgents américains. Donc c'était quelqu'un qui avait voilà, le sens de la liberté, si on veut. Et ben ce marquis de La Rouërie, d'origine bretonne, après la guerre d'indépendance, il va revenir en France, auréolé d'un certain prestige, et il va se retrouver embastillé pendant, donc emprisonné à la Bastille pendant 3 mois, parce qu'il avait fait partie d'une députation de délégués bretons envoyés auprès du roi pour protester contre une mesure financière. Je ne saurais plus vous dire laquelle, mais voilà, le roi n'a pas apprécié et les a fait emprisonner pendant un petit moment. Et donc ensuite, quand arrive la Révolution, lui, tout ce qu'il retient en premier, c'est mince, la Bretagne est en train de perdre tous ses privilèges. Nous, les Bretons, nous sommes en train de perdre tous ses privilèges. Donc, il monte une petite conspiration, enfin non, une grosse conspiration plutôt, armée, qui avait normalement pour objectif de se déclencher dans l'année 1791-92, c'est-à-dire là, il avait vraiment prévu un soulèvement organisé. Et en fait, il va décéder en 1791, il ne pourra pas mener à bien sa révolte, son mouvement contre-révolutionnaire. Et puis, les choses vont faire que quand en mars 1993, il va y avoir ce soulèvement populaire contre la chouannerie, tous les autres nobles qui avaient participé à cette conspiration vont prendre le train en marche, entre guillemets, et vont arriver en disant, ben, nous, on avait prévu une conspiration depuis 2 ans. Pour lutter contre la République, donc voilà, on va prendre la tête de votre mouvement un peu épars, et puis organiser tout ça. Donc c'est vrai que dans les débuts, la chouannerie, contrairement aux guerres de Vendée, est moins spontanée, elle est déjà un peu plus organisée. Je vais vraiment essayer de synthétiser du mieux possible. Il y a une différence de temporalité, on va dire, entre les guerres de Vendée et la chouannerie. Alors certes, les deux mouvements commencent vraiment en mars 93. Mais la différence, c'est que en Vendée, donc en mars 93, il y a des tas d'émeutes un peu instantanées qui se produisent dans les villes et villages où avait lieu le tirage au sort. En Vendée, les bandes se forment, marchent sur d'autres villes, d'autres paroisses, et surtout affrontent les quelques malheureuses garnisons. Qui se trouvaient sur le territoire, les affrontent et puis surtout les repoussent assez facilement. Donc, un peu par, je dirais pas par hasard, parce que la situation militaire de la Vendée le permettait, très vite, en 2-3 victoires, ils débarrassent pardon, une bonne partie de la Vendée de toutes les troupes militaires, ce qui fait que tout d'un coup, ils ont un territoire complètement libéré de l'administration républicaine, des forces républicaines, et que là, le territoire est totalement, de la Vendée militaire est totalement entre leurs mains. En Bretagne, c'est pas ça. Le territoire est beaucoup plus quadrillé par une multitude de garnisons plus ou moins importantes. Ce qui fait que à chaque fois que les paysans se soulevaient contre la conscription, très vite, il y avait une riposte assez ferme et instantanée. Donc, le mouvement, entre guillemets, était tué dans l'œuf. Il faut dire aussi qu'évidemment, la Bretagne et le Maine étaient plutôt connus comme des provinces rebelles. Ça, c'est pas nouveau. Donc, voilà, l'administration républicaine, très souvent issue de l'ancienne l'administration royale, a réagi très, très vite. Donc, du coup, il n'y avait qu'une seule solution qui se présentait pour tous ces Bretons méniaux et méniaux révoltés, c'était de passer la Loire et d'aller rejoindre les Vendéens qui, eux, s'étaient vraiment constitués en une armée qui remportait des succès. Voilà. Donc, pendant l'année 1793-1794, il se passe pas grand-chose pour la chouannerie en Bretagne et en Normandie. Tout se passe en Vendée. Il y a une très grosse partie des futurs chouans qui ont fait leurs premières armes du côté des Vendéens. Voilà. Sauf que, comme l'a expliqué Arnaud, c'est surtout à ce moment-là qu'on fait un gros lien entre guerre de Vendée et chouannerie, les Vendéens sont battus au bout d'un an de vraies campagnes militaires, on va dire. Et donc, la plupart des Bretons, Méniots et Normands retournent chez eux. Sinon, c'était être massacré voilà, avec l'armée des Vendéens qui revenaient de Granville, ou sinon être pris dans une colonne infernale. Voilà, donc, ils sont rentrés chez eux. Et fort de leur expérience en Vendée, ils ont décidé de continuer la lutte chez eux, en Bretagne, dans le Maine et un petit peu en Normandie. Et plutôt simplifié en disant en Bretagne. Parce que Normandie, au final, très peu de chouans normands ont fait leurs armes en Vendée. Avec l'expérience acquise en Vendée, voilà, ils lancent le mouvement de la chouannerie bretonne en 1794. C'est-à-dire qu'en 1794, voilà, il y a des petites bandes qui se montent, qui sont très mal armées, mais ils ne font pas la bêtise comme les Vendéens de chercher à affronter en terrain découvert les garnisons républicaines ou les troupes régulières républicaines qu'on leur envoie. Non, ils ont vite compris que, justement, après avoir vu ce qui s'était passé en Vendée, que de toute façon, ils n'avaient pas la supériorité militaire et qu'il valait mieux se diriger vers la guérilla. Là, il y a un facteur important qui va jouer et qui aura fait défaut aux Vendéens, c'est l'aide des Anglais. On aura beau dire, les Anglais, au final, étaient toujours très intéressés dès qu'il y avait deux, trois troubles en France, dès qu'ils pouvaient mettre un peu le bazar dans le pays. Donc forcément, les contre-révolutionnaires royalistes, ils ont très vite accordé du soutien aux contre-révolutionnaires royalistes et surtout aux chouans pour une raison toute simple, c'est qu'il était plus facile de débarquer des armes, de l'argent, des munitions sur les côtes bretonnes que sur les côtes vendéennes qui, elles, étaient plutôt essentiellement aux mains des républicains. Tandis que voilà, les côtes bretonnes, au final, étaient très peu surveillées et très peu occupées par l'armée républicaine. C'était clair qu'à cette époque, c'était la marine anglaise qui avait la maîtrise des mers. Et donc, il leur était très, 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 très facile de faire des débarquements d'armes en pleine nuit. Puis même, au bout de 3 ans, ils feront des débarquements d'armes en plein jour. Voilà, c'est facilement. Je vais éviter de me disperser, mais les Anglais, du coup, vont soutenir très très vite les Chouans. Pendant l'année 1795, on a les premiers débarquements d'armes qui se font. Pour vous donner une idée, c'est assez impressionnant de voir que des petites bandes qui s'étaient montées au début de l'année 1794, sur 100 hommes, il y en avait 20 qui avaient des fusils, et ben, c'est assez impressionnant de voir que un an plus tard, voire 6 mois plus tard, presque tous les hommes étaient équipés d'un fusil de marque anglaise, les Brandeis britanniques, mais du fusil en plus de munitions, de tout ce qui allait très bien. Donc, de tout ce qui allait avec, pardon. Donc du coup, les Anglais ont beaucoup plus soutenu la chouannerie que les guerres de Vendée, pour la simple et bonne raison que beaucoup de chefs chouans étaient des nobles, qui avaient parfois émigré dès les débuts de la Révolution en Angleterre, qui avaient déjà des liens avec l'Angleterre, donc ils ont fait marcher les réseaux qu'ils avaient pour obtenir un soutien. Au point que Il y a un grand événement dont Arnaud a parlé à l'été 1795. La chouannerie bat son plein. Les Anglais ont organisé un débarquement, mais là pas seulement d'armes, mais un débarquement de troupes régulières et de 5 000 soldats réguliers qui vont se joindre à 15 000 Chouans. Le débarquement se fait à Quiberon. Le but. C'était vraiment le but ultime, était de débarquer cette armée à Quiberon pour ensuite occuper tout le Morbihan qui, de toute façon, était déjà bien libéré de toute présence républicaine, ensuite de reprendre toute la Bretagne, la Normandie, dans le même temps, la Vendée devait se soulever, et puis tout ce beau monde, tout l'Ouest, du coup, allait se soulever, et ensuite, il fallait marcher sur Paris et renverser le gouvernement républicain. Il se trouve que par hasard de circonstances, à cause de beaucoup de facteurs, mésentente entre les chefs, efficacité de l'armée républicaine commandée alors par ce tout nouveau général nouvellement arrivé qui est le général Hoche, le débarquement va échouer lamentablement. C'est-à-dire que cette armée des émigrés, comme on va l'appeler, va réussir à débarquer dans la presqu'île de Quiberon, mais va s'y faire enfermer, littéralement. Pendant un mois, ils vont être enfermés dans cette presqu'île par les républicains qui les empêchent de sortir, voilà. Et cette armée va être anéantie à la fin du mois de juillet 1795. Ça va être un énorme gâchis. Et surtout, Quiberon va mettre un sacré coup au moral chez les Chouans bretons. Et ça va entraîner une grosse défiance de la part des Chouans issus du peuple, des roturiers, ça va entraîner une très grosse défiance envers tout ce qui est issu de la noblesse. Donc du coup, les deux ne pourront plus jamais s'entendre à partir de l'année 1795. Voilà, je vais essayer de simplifier un maximum. Un élément quand même important, contrairement aux guerres de Vendée, c'est que la chouannerie, au final, va durer de 1794, 1795 à mon sens, parce qu'elle commence vraiment à ce moment-là, jusqu'en 1815. En fait, la chouannerie va continuer pendant tout l'Empire. Et la dernière chouannerie va avoir lieu en 1815, pendant les 100 jours, pendant le retour de Napoléon. Elle va être entrecoupée de paix, de trêve proposées par les républicains ou les royalistes qui vont être plus ou moins respectées. Voilà, c'est une lutte continue pendant près de 20 ans, avec des rebondissements en tout genre, et puis surtout avec l'arrivée en 1801 de Bonaparte qui va arriver au pouvoir, et puis qui va quand même, et qui est à mon sens le fossoyeur de la chouannerie, qui va réussir à mettre fin à la chouannerie, soit en usant de flatterie auprès des chefs chouans, en essayant de les acheter contre des grades, contre des postes, chez certains ça va marcher, soit parfois de perfidie. Par exemple, le principal chef chouan de Normandie, qui est Louis de Frotté, Bonaparte va lui faire une proposition de l'argent et un grade de général dans l'armée impériale tout nouvellement créée. Louis de Frotté va refuser. Et Napoléon va l'attirer dans un guet-apens sous prétexte de pourparler, il va l'attirer à Alençon. Pendant 3 jours, alors tout va bien se passer. Frotté croit vraiment qu'il a des négociateurs en face de lui. Ils vont se retrouver tous les jours dans une auberge à Alençon pour discuter d'une éventuelle paix. Et puis en fait, au bout du 4e jour, il arrive un matin avec ses officiers, plutôt confiant, puisque tout s'était bien passé pendant le 3e jour. Sauf que manque de chance, c'était les gendarmes qui l'attendaient dans l'auberge et qui vont se saisir de lui sans plus de forme de procès. Et il sera emprisonné, puis ensuite exécuté. J'oublie le lieu, mais le lieu de son exécution se trouve en Normandie. Donc Bonaparte était un fin politique, un fin militaire, et donc il va user de tous ses talents dans les deux domaines pour pas vraiment anéantir la chouannerie, mais en tout cas lui faire perdre de son intensité. Effectivement, par exemple, si on regarde, il y a des chefs chouans qui continueront à se faire arrêter. Alors, on a Debar, qui était un chef chouan limitrophe Finistère-Morbihan, qui se fera exécuter, enfin qui se fera abattre au cours de son arrestation en 1809. On aura Pierre Mercier, qui est né du Morbihan, qui se fera abattre en 1812. Donc là, on est vraiment pendant l'Empire, quoi. Là, on parle vraiment, c'est les chouans contre l'Empire de Napoléon. Donc en ça, c'est vraiment une très grande différence avec les guerres de Vendée, parce que la chouannerie est un mouvement qui s'étend sur près de 20 ans et qui affronte au début la République et puis ensuite qui finit par affronter l'Empire et Napoléon. Et pour beaucoup de Chouans, et au final c'est vrai, leur lutte se soldera par une victoire, puisqu'en fait ils déposent vraiment les armes en 1814 quand Louis XVIII revient. Les reprennent en 1815 quand Napoléon reprend le pouvoir et ils les redéposent à nouveau quand Louis XVIII revient. Donc ils les ont déposés non pas parce qu'ils étaient vaincus militairement, anéantis psychologiquement, moralement ou matériellement, non, ils ont arrêté le mouvement parce que le roi était revenu. Donc pour moi, on peut même dire que la chouannerie s'est soldée par une victoire. Ouais. On peut entrer dans les détails après, parce qu'au final, il y a beaucoup de mouvements internes dans la chouannerie, beaucoup de tendances différentes qui font que les chefs ou même les combattants avaient des attentes différentes. Vous voyez pas tous la restauration et le retour du roi de la même façon. Je vais terminer aussi par, comme ça après on pourra passer à la partie réponse aux questions, par un dernier point fait vraiment la différence entre les guerres de Vendée et la chouannerie, c'est et ça comment je reprends en ça les travaux de Jean-Clément Martin. Il a fait une étude très intéressante là-dessus. Ce qui fait la différence entre les guerres de Vendée et la chouannerie, c'est la manière dont l'État a réprimé les deux mouvements. Arnaud a beaucoup parlé effectivement de la face sombre des guerres de Vendée, mais qui très présent, c'est tous les massacres, toute la répression par le massacre, par la terreur, par l'épuration d'un territoire et d'une population tout entière. La chouannerie, c'est pas ça. Les Chouans ont été beaucoup moins stigmatisés, vilipendés. Effectivement, le gouvernement républicain a dû faire vraiment face à la chouannerie en 1795. Et tout, on sortait des guerres de Vendée. Donc, aussi bien les royalistes que les révolutionnaires ne voulaient pas que ce qui s'était passé en. Que les républicains, pardon, parce qu'on ne peut plus trop parler de révolutionnaires, ne voulaient pas que ce qui s'était passé en Vendée se reproduise en Bretagne, en Normandie et dans le Maine. Même les administrateurs républicains dans les districts de ces provinces le disaient, hein, on le voit bien dans les lettres qu'ils écrivaient, on n'a pas envie que notre territoire se transforme en une seconde Vendée. Et puis surtout, voilà, 1795, c'est la chute de Robespierre. Si on essaie de revenir à une révolution plus modérée, donc ce serait mal vu de se lancer dans des massacres, etc. Donc du coup, le gouvernement républicain a été beaucoup plus consensuel et modéré avec les Chouans, ce qui fait que le mouvement a pu perdurer. Qu'au final, ils ont adopté une méthode de lutte de contre-guérilla qu'on retrouvera, bah voilà, comme pour Napoléon en Espagne et comme pour toutes les autres petites révoltes, sans tomber dans des gros massacres et puis nettoyage total de territoire par le système de colonies infernales et autres. Donc là-dessus, ça fait une très grande différence. Je vais terminer quand même parce qu'en fait, il y a une chose que je n'ai pas expliquée, c'est l'origine du mot chouan et du terme chouannerie. Donc, chouan, effectivement, l'explication la plus communément admise, c'est que c'est un mot qui désigne, qui désignait même avant la Révolution, une personne qui se livrait à des activités nocturnes. En l'occurrence, ça désigne du coup plus précisément un contrebandier. Le terme chouan, au moment en 1792, c'est cette année-là que le terme apparaît en premier dans les archives républicaines, en fait, est apparu au moment où il y a eu les troubles dans la région de Vitré et que la ville de Vitré a été attaquée par une bande de rebelles qui était menée par le fameux Jean Chouan. Son vrai nom, c'était Jean Cottreau. Le nom de famille, c'est Jean Cottreau. Mais il était déjà surnommé Jean Chouan parce qu'il était contrebandier. Il se trouvait justement dans la région du Maine, à la frontière entre la province du Maine et la Bretagne, qui du coup ne bénéficiait pas, il n'avait pas le même régime de finances. Comment dire, la Bretagne, voilà, je vous ai parlé des privilèges financiers, la Bretagne était exempte de taxes et pas le Maine, donc du coup ça donnait lieu à une contrebande intensive, c'était le lieu rêvé pour faire de la contrebande. Au risque de casser un peu le mythe, c'est la seule raison pour laquelle Jean Chouan s'est lancé dans la chouannerie et dans la lutte contre la nouvelle administration républicaine. C'est parce qu'avec l'abolition des privilèges, il trouvait des privilèges financiers et des taxes, enfin, des taxages plutôt, il ne trouvait plus aucun intérêt à faire de la contrebande. Donc voilà, il s'est lancé dans la lutte armée. Donc voilà pour l'origine du mot. Oui, toujours encore de l'argent, effectivement. Pour jouer un commentaire, ouais, c'est un peu ça. Au final, les motivations étaient très matérielles aussi, mais j'aurais pas le temps d'en parler. Le terme Chouan, voilà, vient de Jean Chouan. Après, le mot Chouan vient précisément du mot breton choualaneur. Choualaneur qui veut dire chasser les mauvais oiseaux de nuit. Bon, bref, dans tous les cas, on retrouve la même racine, c'est se livrer à des activités nocturnes. Donc, correspond assez bien au chouan. Puis voilà, et ensuite, le terme s'est étendu et s'est même généralisé ensuite sous l'Empire, sous la Restauration et dans les siècles qui suivirent. C'est généralisé pour désigner n'importe quel révolté royaliste ou royaliste. Très souvent, on pouvait parler de quelqu'un politiquement qui était un chouan parce que voilà, c'était un royaliste. Donc voilà pour l'origine du mot chouan. Et je vais m'arrêter là, sauf si je peux continuer encore un peu ou vous préférez qu'on passe aux questions.
Alors je pense que tu peux continuer un peu si tu as encore des choses à dire. Dans le cas contraire, je propose qu'on refasse le tout début qu'on n'a pas fait, qui est de vous présenter, parce qu'on est parti un petit peu en cacahuète, en trombe directement sur les sujets essentiels sans vous présenter, c'est un peu dommage. Et après, éteindre les bottes et passer aux questions-réponses.
Ben, Arnaud, vas-y, commence par te présenter, puisque c'est toi qui as commencé à parler.
Je voulais pas continuer, t'avais pas encore à dire.
Ah, enfin, il y avait quand même quelque chose, parce qu'au final, c'était un sujet qu'on devait aborder quand Marmotte nous a proposé la conférence, c'était de parler un peu comment ça a été, ces deux mouvements ont été traités par la suite, aussi bien politiquement que par la littérature, dans les arts et tout ça. Arnaud a montré, c'est vrai, beaucoup pardon, de peintures sur les guerres de Vendée. Moi, vraiment, pour la chouannerie, c'est vrai que la chouannerie, pas quelque chose d'assez aventurier et même c'est empreint d'un certain romantisme dans le sens du roman et de l'histoire. À commencer par la fameuse œuvre de Balzac, Les Chouans, tout simplement, où il a popularisé un peu la figure du chouan. Donc, effectivement, il faut imaginer ce que c'était le chouan. C'était au final cet être un peu rustre qui parlait breton, qui parlait très très mal le français, qui avait des cheveux longs parce que bah, pour les Bretons il fallait avoir les cheveux longs, hein, c'était le symbole de force, donc c'était une honte quand. Voilà, oui, les Chouans de Balzac et 93 de Victor Hugo, mais je vais plutôt parler des Chouans de Balzac. Il fallait avoir les cheveux longs et d'ailleurs. Une pratique très répandue chez les Chouans quand ils capturaient un républicain ou qu'ils s'en prenaient à un prêtre réfractaire ou un administrateur, un maire ou breton, c'était de lui raser les cheveux. C'était une honte. Donc voilà, le Chouan avec les cheveux longs, ce grand chapeau qui lui cache à moitié le visage. En hiver, il est vêtu d'une peau de bique. Donc ça lui donne une allure vraiment rustre et vraiment terrifiante. Et Balzac a assez bien popularisé cette vision du Chouan qui n'est pas si fausse, hein, qui est même très juste. Notamment dans les premières éditions du livre, il y avait de magnifiques gravures voilà, qui faisaient ressortir un peu cette ambiance de la chouannerie. Ça a été abordé évidemment dans les tableaux chez les peintres du 19e siècle. Là, on est un peu, et Arnaud sera d'accord avec moi pour la partie vendéenne, on est un peu sur du cliché, effectivement, on voit les chouans. Je vais partager, j'avais quelques tableaux, je vais les partager dans le fil de documents, mais on voit des chouans qui sont tous en costume breton traditionnel. Ce qui est un peu faux, au final, si on parle un peu des costumes Parce que c'est très peu évoqué même. Au début, quand les premiers mouvements de révolte ont eu lieu, le paysan, il allait se battre dans la tenue du moment. Donc la tenue du paysan, c'était quoi? C'était une blouse de travail, le pantalon qui était loin d'être le, pour la Bretagne, je parle, qui était loin d'être ce qu'on représente souvent, le pantalon bouffant qu'on appelle le bragoubraz, mais qui au final est juste répandu dans la région de Quimper. Par exemple, dans le nord du Morbihan, dans les côtes d'Armor, même le costume traditionnel breton, en bas, c'est un pantalon, c'est pas ce bragoubraz bouffant. Il allait se battre comme ça avec un chapeau, puis selon son domaine d'activité, voilà, le meunier, il allait se battre dans sa tenue meunier, etc. Puis au bout d'un moment, quand le mouvement s'est un peu plus structuré, il y en a beaucoup qui décidaient d'aller se battre en habit du dimanche, donc ils mettaient la tenue de leur paroisse, puisque chaque paroisse bretonne avait sa tenue, une sorte d'uniforme, donc qu'on recevait, je crois si ma mémoire est bonne, pour sa première communion. Généralement, c'était la grand-mère qui faisait le gilet et la culotte qui allait avec, et puis qu'on mettait pour les grands moments de la vie de la paroisse, hein, on ne parlait pas encore de commune, et toutes les tenues étaient différentes, hein, évidemment. Là, si on pouvait distinguer les paroisses rien qu'à la couleur du gilet. Par exemple, voilà, dans la région de Guéméné, le gilet de paroisse avait quatre rangées de boutons, ce qui fait que les gens de la région de Guéméné étaient surnommés les 1000 boutons. Voilà, dans la région de Vannes, le gilet, si ma mémoire est bonne, était plutôt brun et puis d'un autre style différent. Donc il y avait, sans le vouloir, une espèce d'uniformité à partir du moment où ils décidaient d'aller mourir en belle tenue, si on veut. Et puis, quand même, au bout d'un moment, et ça, c'est l'objet de. Je fais actuellement des recherches sur ce sujet-là. Il est clair et net que y a vraiment un uniforme militaire qui a été lancé à partir de l'année 1795. À la fin de la première chouannerie qui se termine en mars 1795, il y a des négociations qui sont ouvertes entre le général Hoche et le représentant de la chouannerie bretonne qui est j'allais dire le comte de Puisaye. Bon, j'ai oublié son nom, mais c'était un noble qui représentait toute la chouannerie bretonne. Et je vais essayer de retrouver son nom quand même. Et ce chouan avait décidé d'habiller tous les officiers, tous les autres chefs chouans qui devaient participer à ces négociations d'une même façon. Donc il avait décidé de leur faire faire des uniformes gris à revers noir, qui sont les couleurs du deuil, en mémoire de la mort de Louis XVI et de Louis XVII. C'est le comte de Cormatin, voilà, j'avais oublié. Et ensuite, on retrouve dans beaucoup de signalements, dans les archives de signalements faits par la gendarmerie ou par ou même l'armée républicaine, quand ils capturaient des chouans ou quand ils faisaient signalement, on retrouve très souvent une description de veste verte et pantalon brun. Il y a beaucoup d'autres sources qui mentionnent une veste verte et un pantalon brun. Donc, il est très probable qu'à la fin, les chouans, enfin pas à la fin, même en 1795, les chouans avaient vraiment adopté un uniforme. Donc, pour revenir à l'histoire des peintures, ce qu'on représente dans les peintures, ce que les peintres ont essayé de représenter au 19e siècle, c'est plutôt inexact au niveau des costumes. Voilà, ils ont popularisé une image qui est au final assez fausse. Après quand même, puisqu'on parle de la Bretagne, politiquement, effectivement, je l'ai dit dès le début, la chouannerie, le chouan, c'est le symbole du breton. Et c'est un symbole qui a été repris par tous les camps, contrairement aux guerres de Vendée, qui plutôt, c'est plutôt politiquement, c'est on va dire, enfin, on risque de tomber dans le cliché, les gens de droite, voilà, royalistes, catholiques ou autres qui se reconnaissent dans les guerres de Vendée. Dans les Chouans, pas du tout, puisqu'on a vu des mouvements de gauche, des mouvements ouvriers qui se revendiquaient des Chouans en disant, voilà, nous, on se bat, on manifeste pour nos privilèges, comme le faisaient les Chouans autrefois. Évidemment, on a vu aussi des mouvements de droite et même d'extrême droite se revendiquer de la chouannerie, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, Il y avait l'équivalent des miliciens vichistes en Bretagne. C'était une milice bretonne qui s'appelait le Besen Brot. C'était vraiment des miliciens bretons hein, qui collaboraient avec l'Allemagne nazie dans l'espoir qu'ils obtiendraient l'indépendance à l'issue de la guerre. Bon, très bien. Mais au début, ça ne s'appelait pas le Besen Perrot, ça s'appelait le Besen Cadoudal, du nom du chef chouan, Cadoudal. Donc voilà. Ensuite, ils aimaient beaucoup arborer le Groisedu plutôt que qui est le drapeau breton, le vrai drapeau breton historique, qui est la grande croix noire sur un fond blanc, et pas le Guenadu comme on connaît maintenant, hein, le noir et blanc, voilà, avec les hermines et puis les rayures noires qui fait penser à un drapeau américain dérivé. Donc voilà, oui, je vois dans le fil des questions, c'est bien ça, un bragobras, c'est ce pantalon bouffant. Effectivement, c'est un habit de toute beauté, entre guillemets. Donc faut les imaginer, oui, pendant un petit moment, ils sont peut-être un peu battus dans cette tenue. Voilà, donc politiquement, la chouannerie a été énormément reprise par les deux bords politiques, par toutes les tendances politiques. Le facteur commun, c'est quand même que le chouan, c'est l'identité bretonne qui s'incarne à travers lui. Et l'identité bretonne dans la chouannerie, elle est très importante. Par exemple, pour vous en donner un parmi tant d'autres, c'était très mal vu quand il y avait un officier noble qui arrivait qui n'était pas breton et qui ne savait pas parler breton. Parce que ces hommes ne voulaient pas parler français. Ils voulaient être commandés en breton, ils voulaient parler breton. Les commandements sur le terrain étaient très souvent donnés en breton. Et du coup, c'était même très utile pour berner les bleus ou les gendarmes. Quand vous étiez arrêté et qu'ils vous interrogeaient, bah, le breton, le chouan répondait en breton. Et très souvent, vu que les gendarmes n'étaient pas issus de la province, bah, ils étaient un peu perdus, ils ne comprenaient pas. Voilà. Et même d'un point de vue vraiment tradition celtique, les plus grands chefs chouans, par exemple Georges Cadoudal, Jean-Jean qui était un chef de la région de Beau, et Julien Cadoudal, son frère, ont eu droit à un chant funèbre composé en breton qui racontait leur mort, qui évoquait leur mort. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment la tradition celtique. Par excellence, les grands chefs de guerre, celtes, et puis bretons par la suite, même pendant le Moyen Âge. Voilà, c'est ça, oui, je vois qu'il y en a qui ont. Quelqu'un a partagé le Groisedu, c'est bien ça, oui, c'est ça. Avoir un chant qui évoquait son décès, composé en plus par ce qu'on appelait encore à l'époque un barde, c'était vraiment l'honneur suprême. Hein, il y a je dis la ballade, mais ça porte un autre nom, de la mort de Jean-Jean, c'est composé uniquement en breton. Hein, ça fait d'un ouais, voilà, c'est le chant, et intégralement en breton. Et d'ailleurs, comme le dit si bien Jean Guillot, un historien actuel pour la chouannerie, jusqu'à l'arrivée de la télévision, quand les gens passaient des veillées ensemble à discuter, il n'y avait pas très souvent, dans la plupart des foyers bretons, on chantait une de ces chansons qui étaient transmises de génération en génération, et les gens aimaient beaucoup évoquer la chouannerie et étaient toujours très fiers de dire qu'ils avaient eu un ancêtre chouan. Donc voilà, la chouannerie, l'identité bretonne est très importante. Et pourquoi je dis que pour moi la chouannerie était bretonne? Parce qu'au final, voilà, c'est les Bretons qui ont supplanté les révoltés issus du Maine, mais qui de toute façon pour la moitié étaient eux-mêmes Bretons, surtout chez les nobles, et puis surtout ont supplanté malheureusement les pauvres Normands qui, malgré une belle lutte, surtout dans le sud de la Normandie, autour de la région de Flers, n'ont pas autant marqué les esprits que les Chouans bretons. Pour un peu la vision qu'on a eue par la suite de la chouannerie jusqu'à aujourd'hui, quand même, oui. Et après, une dernière petite anecdote, puis je laisserai Arnaud parler de la Vendée. Si vous allez à Quiberon, vraiment, hein, il y a la place Hoche, du nom du fameux général Hoche qui a vaincu l'armée des émigrés au même endroit. Et il y a une statue qui a été. qui a été construite à la fin du qui a été édifiée à la fin du 19e siècle, et ben cette statue a été dynamitée deux ou trois fois, je crois, et deux fois ça a été par le FLB, le Front Libération Breton. Voilà, parce que c'était comment dire, c'est pas tant le républicain le symbole républicain qu'ils attaquaient, que le symbole de l'État central français qui a tenté de s'implanter en Bretagne au moment de la Révolution. Donc voilà, je termine avec cette petite anecdote, puis je laisse la parole à Arnaud s'il veut parler de la Vendée.
Bah, merci bien. Bah, si vous voulez, on peut se présenter. Ouais. Alors donc, moi, je m'appelle, enfin c'est mon pseudo, j'ai un pseudo d'auteur Armand Bérard, puisqu'en fait c'est avec ce pseudo que j'avais commis des romans, et donc j'ai gardé ce nom pour après écrire un autre livre, une biographie d'un frère d'Henri de La Rochejaquelein, qui s'appelle Auguste de La Rochejaquelein. Et donc c'est pour ça que j'ai ce nom de pris ce nom d'Armand Bérard. Alors que dire, bah, je m'intéresse beaucoup aux guerres de Vendée depuis très longtemps. Alors, en fait, je suis tout l'inverse de Charles parce que moi, en fait, je suis breton d'origine, mais vendéen d'adoption, alors que Charles est vendéen, enfin en tout cas poitevin de naissance et breton d'adoption. C'est bien ça, Charles, je me trompe pas?
Ouais, c'est exactement ça, tu te trompes pas du tout.
Voilà, donc je suis vendéen d'adoption et je m'intéresse beaucoup à cette histoire des guerres de Vendée, de la Révolution plus largement. Et puis voilà, c'est pas quoi dire d'autre, je suis sinon enseignant en parallèle.
Et du coup, tu as aussi t'es le directeur de la maison d'édition tout
Oui,
bête.
j'ai créé une petite maison d'édition. Au départ, c'était pour éditer mes livres. Après avoir une expérience de l'édition, j'avais préféré m'auto-éditer. Et puis après, j'ai édité d'autres. D'autres auteurs, d'abord des amis, puis après il y a eu le bouche à oreille, et puis c'est notamment comme ça que Charles m'a contacté, étant donné que mes livres ont été connus, on va dire, dans un petit milieu de gens qui s'intéressent essentiellement aux guerres de Vendée. Donc Charles m'a contacté parce qu'il avait un projet de publication d'une biographie d'un chef chouan dont il pourra vous parler si vous le souhaitez.
Ouais.
Donc, j'ai créé cette maison d'édition qui s'appelle Le Lys et le Lin Édition. Alors, pourquoi Le Lys et le Lin, pour la petite anecdote, c'est parce qu'étant donné que je m'intéresse beaucoup aux guerres de Vendée, j'ai trouvé que c'était une manière de symboliser cette alliance qu'il y avait eu au moment des guerres de Vendée entre la noblesse, symbolisée par le Lys royal, et le Lin paysan, puisque en Vendée, dans les Mauges, en Anjou, il y a beaucoup de filatures de lin. Donc, c'était une manière de symboliser cette double alliance, enfin cette alliance en fait dans les guerres de Vendée. Quoi. Pour ça, je s'appelle comme ça le lycée de l'édition.
Très belle explication. ouais, donc du coup, bah voilà, Arnaud a déjà présenté le lien entre nous deux. Donc moi, je suis pas du tout comme Arnaud universitaire et tout ça, puisque dans la vie, je suis militaire, tout simplement. Mais je m'intéresse effectivement beaucoup à l'histoire. Donc breton d'adoption, puisqu'on va dire que je suis originaire d'un petit village en Bretagne. Enfin, mon port d'attache, entre guillemets, c'est ce petit village en Bretagne, Langueillan, donc près de Guéméné-sur-Scorff. Ville connue notamment pour sa spécialité gastronomique qui est l'andouille de Guéméné. Certains sont des amateurs. Voilà, donc j'avais fait des recherches, effectivement, sur une figure locale, un chef chouan local, qui s'appelait Pierre Duchéla, et que j'ai surnommé le chouan oublié, parce que voilà, c'était un chef chouan dont on avait, qui pourtant avait joué un rôle très important dans la chouannerie morbihannaise, mais qui était vraiment oublié, comme son indique, qui était tombé dans l'oubli, et tous mes travaux ont consisté à démontrer qu'il avait été plongé dans l'oubli volontairement. Donc il a fallu. Je vais partager, si ça ne dérange pas, ma page docteur, parce que donc grâce à Arnaud j'ai pu publier cette biographie, et par la suite voilà j'ai fait quelques conférences notamment sur un sujet que j'ai pas mal évoqué, la différence entre les guerres de Vendée et la chouannerie, et puis avec un youtubeur une série de vidéos pour présenter certains grands chefs chouans. Donc justement, si ça en intéresse parmi vous, pour en savoir un peu plus, notamment sur les profils des chefs chouans, vous pouvez aller voir ces vidéos, et puis une vidéo sur le fameux débarquement de Quiberon dont j'ai parlé, et il y a beaucoup de choses à dire. Et je sors prochainement un autre livre, mais qui en fait je ne reste pas du tout sur la chouannerie. Au contraire, c'est une page d'histoire militaire suisse sur le rôle de la Suisse pendant les 100 jours et sur le dernier conflit franco-suisse pendant cette période. Voilà. Donc, voilà pour la présentation.
On aimerait bien le nom du youtubeur.
Non, c'est pas, oui, non, c'est pas Nota Bene. C'est la chaîne YouTube s'appelle, oui, c'est Jean-Noël Toubon, le youtubeur, mais sa chaîne YouTube s'appelle Galia.
Je partage.
Voilà, c'est ça. Merci Arnaud. Arnaud l'a mis dans le fil de discussion, le chat.